C'est 23.
L'essentiel de Paul Arcand, tout ce que vous devez savoir chaque jour en moins de 60 minutes. Bonne écoute.
6h04, nous sommes mercredi 1er juin. Bonne journée et bienvenue au 98.5. D'abord, vous dire qu'on a une fin de semaine et un début de mois de juin marqué par de la pluie. Il y a quelques éclaircies, mais pas beaucoup. Donc, ce matin, couvert, 14 degrés, le maximum aujourd'hui, autour de 18. On aura quelques averses par endroit, rien de majeur. C'est surtout en après-midi où il y a un potentiel d'orage avec des vents jusqu'à 40 km/h, le maximum prévu autour de 18. Quelques averses cessant tard ce soir, potentiel d'orage également, avec un minimum de 12 pour la nuit. Demain, généralement nuageux, c'est du temps gris, c'est 21 degrés. Et de la pluie qui va commencer tard demain soir, et ça va continuer sous forme d'averses toute la journée, vendredi, avec un maximum de 18 degrés. Beaucoup de choses ce matin. Commençons par le dossier de l'immigration. C'est un des sujets chauds. C'est le premier ministre François Legault qui l'a lancé au cours de la fin de semaine en disant « Je veux tous les pouvoirs en immigration ». La réponse est venue de Justin Trudeau. C'est non. Et on ne va pas dans tous les détails ce matin. Il est vrai que le fédéral conserve des pouvoirs. Il est vrai aussi que Québec a une marge de manœuvre. Qu'est-ce que Québec veut de plus? Probablement avoir un contrôle sur les réfugiés, avoir un contrôle aussi sur les procédures administratives. Mais ce matin, là où ça devient intéressant, une étude qui est publiée par l'Institut du Québec concernant, d'une part, les besoins du Québec en termes de main-d'œuvre et le rôle de l'immigration, et aussi comment vont les immigrants qui sont au Québec. Est-ce qu'ils travaillent? Est-ce qu'ils ont vu le revenu augmenter depuis les dernières années? Et je vous dis, c'est une étude intéressante parce que ce que nous dit l'Institut, c'est que les immigrants arrivent et contrairement à ceux peut-être des générations précédentes, arrivent quand même à se trouver du travail. L'accès au marché du travail est en nette progression. C'est peut-être pas toujours l'emploi recherché, l'emploi pour lequel on a étudié. Il m'arrive beaucoup d'échanger avec des gens qui viennent de tous les coins et qui me disent, ben, pas plus tard que cette semaine, moi, j'ai une formation d'actuaire, mais je suis pas capable de me trouver un emploi. D'autres disent, ben, ça va mieux maintenant, les premières années sont difficiles. Donc, le taux de chômage des immigrants est passé de 12,7% au Québec à 5,7%, puis on performe peut-être même mieux que l'Ontario. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, on a besoin d'immigrants. Et M. Legault a toujours joué, on l'a vu encore la semaine dernière, Jean Boulay sort, il dit « Moi, j'en prendrais 58 000 ». Le banqueur a dû téléphoner pour dire « Non, non, ça ne sera pas 58 000, notre cible, c'est 50, les libéraux, 70 000 ». L'Institut dit, d'abord, on a de la difficulté dans le système actuellement à envoyer des immigrants, les convaincre de s'en aller en région. Il y a des efforts. Jean Boulay fait du bon travail, là, en disant aux étudiants étrangers, vous allez payer la même facture que les étudiants québécois, puis vous allez vous établir dans des secteurs plus lointains. Et c'est dans les régions du Québec où le vieillissement est le plus important et il y a un besoin criant de main-d'œuvre. Alors, l'Institut dit, l'immigration, ça ne répond pas à tous les problèmes, mais c'est une clé pour le développement des régions. Et troisièmement, l'Institut reconnaît la lourdeur, les lenteurs de l'appareil fédéral à donner une réponse, à donner des statuts. Je sais que vous êtes nombreux aussi à m'écrire, là, en me disant que vous êtes en attente d'une réponse, vous avez obtenu l'approbation du gouvernement du Québec. Là, ça prend le fédéral. C'est vrai que tout ça est lourd, que tout ça est compliqué, mais je pense que c'est un débat qui s'est mal engagé sur l'immigration et que je sais qu'il y a d'autres économistes qui prétendent qu'il faut regarder l'impact plus global. Trop d'immigrants dans une région, est-ce que ça risque d'augmenter la xénophobie, le racisme, l'intolérance? Pourtant, c'est souvent dans les régions où il y en a le moins qu'il y a le plus d'inquiétude, on l'a vu, par rapport, par exemple, à Montréal. Mais je trouve que c'est un sujet, puis c'est un débat intéressant. On va en reparler ce matin, puis je vais ouvrir les lignes. Je veux parler à des immigrants pour résumer votre parcours un peu. Et aussi, ce matin, on va parler avec le député libéral, Saul Paulo, qui a été présenté comme une anecdote hier. d'origine colombienne, qui parle français, qui parle sa langue maternelle à la maison, puis c'est son choix. Mais là, il faut arrêter de faire, je pense, un débat sur quelle langue vous parlez entre les membres de votre famille. Puis moi, je vois de plus en plus de gens de deuxième génération qui s'intègrent à la communauté francophone. C'est plus difficile, je vous le disais, pour des parents. Puis là, 6 mois, j'y crois pas. Puis visiblement, je suis pas le seul. Là, je voyais des experts en fin de semaine linguistique en disant c'est à peu près impossible qu'un immigrant, puis pensons à des réfugiés ukrainiens qui débarquent, là, avec tout ce qu'ils vivent, vous allez apprendre le français en 6 mois, 8 mois. T'sais, ça prend 2 ans, 3 ans pour être fonctionnel. Puis dans le cas des enfants, ben c'est sûr que ça va beaucoup plus vite. Alors voilà pour ce qui est de cette étude sur l'immigration. Je rappelle juste avant de passer à l'Ukraine qu'aujourd'hui, on va inaugurer un monument, une statue à la mémoire de Jacques Parizeau. Et Jacques Parizeau, c'est sûr, a marqué par les propos malheureux au référendum, et ça l'a suivi. Et je me souviens des dernières entrevues réalisées avec lui ici en studio, M. Parizeau, qui était furieux contre la charte et qui disait qu'on allait nulle part avec ça. Et en tout cas, dans au moins 2 ou 3 entrevues avec lui, cette espèce d'ouverture qu'il affichait. Et Jacques Parizeau demeure un Québécois majeur, autant pour son rôle comme sous-ministre qui a marqué le Québec dans la transformation de l'État québécois. Évidemment, pour les souverainistes, il a porté le ballon avec Lucien Bouchard pratiquement à la porte de la victoire, mais aussi cette analyse, cette capacité, cette grandeur, ça demeure un des grands Québécois. Donc aujourd'hui, M. Parizeau, qui est décédé il y a 7 ans, ce sera un hommage. L'Ukraine, maintenant, beaucoup de choses ce matin. D'abord, les Américains vont envoyer un système sophistiqué de missiles. Les Ukrainiens s'engagent à les utiliser, mais avec un certain contrôle, à ne pas toucher le territoire russe, premièrement. Aussi, il faut regarder la situation qui évolue dans la ville de Severodonetsk. 70 % de la ville est maintenant sous contrôle russe. J'ai parlé tantôt avec Tetiana Ogarkova en direct de l'Ukraine. Voici ce qu'elle nous dit sur la situation terrain.
Oui, tout à fait. Ce matin, on a reçu l'information que déjà 70 % de la surface de cette ville est contrôlée malheureusement par l'armée russe. Donc, il est à savoir que la surface de cette ville elle n'est pas si grande, c'est 42 km carrés. Pour comparer, Mariupol est 4 fois plus grand. Une population de 5 000 habitants, dont une 15 000 d'habitants sont encore sur place. Il y a plus d'évacuation, malheureusement. Les gens qui restent dans la ville sont dans les souterrains. Hier, il y avait aussi une attaque délibérée de l'avion russe contre un réservoir de l'acide nitrique, en fait, une substance chimique qui peut être poisonneuse pour les habitants. Donc, c'était une attaque faite exprès, en fait. La situation est très grave, en fait, pour l'armée ukrainienne sur le terrain. Mais il est à savoir qu'à côté de Severodonetsk, il y a la ville de Lysychansk qui est située un peu à l'auteur. Et donc, il y a une contre-attaque ukrainienne qui est tout à fait possible et envisageable, bien sûr. Severodonetsk était déjà pris par les Russes durant l'année 2014, justement aussi au mois de mai, et ensuite libéré par l'armée ukrainienne en juillet 2014. Donc, on espère tous qu'une libération sera possible dans les mois à venir.
Maintenant, le président Zelensky qui fait état des pertes militaires du côté ukrainien.
Oui, hier, Volodymyr Zelensky, président de l'Ukraine, dans une interview, a dit que les pertes ukrainiennes officielles sont de 70 à 100 soldats ukrainiens qui perdent leur vie, malheureusement, durant cette bataille de Donbass. Donc, c'était une réplique à des appels de contre-attaquer d'une manière plus énergique. Il a dit que le prix que l'Ukraine paye pour les contre-attaques et pour contenir justement cette attaque russe, elle est très grande, parce que vous pouvez faire des calculs pour voir combien d'hommes on perd tous les mois aujourd'hui, malheureusement. Il a aussi fait appel à plus d'armes et surtout des armes qui sont efficaces à des longues distances, en fait.
Et puis en terminant, ce 1er juin, Tatiana, c'est la journée de l'enfant en Ukraine. Peut-être nous dire comment cette journée, dans un contexte de guerre, va se passer chez vous.
Oui, c'est une journée très spéciale, puisque d'habitude, on a beaucoup de fêtes, on a des manifestations, on a beaucoup d'activités organisées pour les enfants. Malheureusement, ce n'est pas le cas cette année, puisqu'on est en pleine guerre. 243 enfants ont déjà perdu leur vie, malheureusement, durant cette guerre, et ceci à partir de très jeune âge, des nouveau-nés, et ça va jusqu'à 18 ans. Malheureusement, on apprend dans les actualités assez souvent les morts des enfants. Il y a plus de 600 enfants qui ont blessé et bien sûr plusieurs qui ont dû quitter l'Ukraine, leur patrie en fait, pour se réfugier en Europe. Il n'y a plus d'école, en fait, il n'y a plus d'école maternelle en Ukraine depuis le début du conflit, c'est-à-dire les enfants jusqu'à 7 ans, ils ne peuvent pas atteindre des établissements scolaires. Ceux qui sont plus grands peuvent faire des cours à distance, mais on peut parler déjà de l'enfance gâchée en quelque sorte, parce que les enfants sont privés de leur activité habituelle, il n'y a plus de fêtes, il n'y a plus d'activité, il n'y a plus d'école. Donc bien sûr, malheureusement, ça peut avoir un impact pour l'avenir de ces enfants, de toute une génération.
Voilà, c'était Tetiana Ogarkova qui nous parlait tout juste en banlieue de la capitale Kiev. Et c'est un rendez-vous presque quotidien avec elle. Jean-François Lépine aussi sera avec nous tantôt pour résumer les grands enjeux qui se dégagent de cette guerre qui approche maintenant des 100 jours. On va poursuivre un peu sur l'essence, le coût des vacances, bref, sur l'état de votre portefeuille. Évidemment, après des vagues qui ont fait mal dans les dernières semaines, ça semble vouloir un peu se stabiliser. La Banque du Canada va faire connaître son taux directeur aujourd'hui et on s'attend quand même à une augmentation importante puisque l'économie est en croissance, en tout cas les résultats du dernier trimestre. Et l'inflation est toujours galopante, pas besoin de faire un dessin non plus. Alors, surveillons aujourd'hui la Banque du Canada avec une augmentation du taux directeur, puis ça a un effet direct sur les taux d'intérêt, taux hypothécaires, votre marge de crédit, bref, les différentes formes d'emprunt que vous avez. L'autre chose, sondage CA Québec, que vont faire les Québécois cet été? D'abord, après une autre période assez difficile de restrictions, puis on peut penser que l'hiver a été dur cette année pour bien des gens. Il y a clairement une volonté de prendre des vacances, de se déplacer en voiture, puis d'aller se promener au Québec. Et même si le prix à la pompe, 2,12 $ le matin, mais on peut penser que ça va même être plus élevé, possiblement durant la haute saison, les gens ont l'intention quand même d'aller se promener. On va revoir l'itinéraire, on ira peut-être un peu moins loin, mais c'est clair que pour la plupart des gens, même si ça coûte cher, même si ça veut dire des dépenses plus importantes en carburant, les Québécois ont l'intention de se déplacer. Et ajoutons également la saga des passeports. Je vous le dis, depuis je ne sais plus combien de jours, on essaie de parler à un être humain qui pourrait venir nous expliquer la situation dans les différents bureaux. Tous les matins, puis il y en a encore ce matin, je suis convaincu, là, qui ont leurs petits écouteurs, puis ils sont devant les portes closes d'un bureau de passeport et qui tentent désespérément de trouver leurs documents. Puis je vous le dis, là, j'en ai tous les jours. Je peux vous donner je ne sais pas combien d'exemples. Puis tiens, je vais vous donner un dernier, M. Pion, qui m'a écrit, en disant « je ne sais plus quoi faire et je sais que je ne suis pas le seul dans cette situation. J'ai envoyé par courrier recommandé ma demande de renouvellement de passeport de mon fils. Son passeport vient à échéance au mois d'août. Je me suis assuré de prendre ça d'avance pour être sûr qu'on n'aura pas de problème. Le 27 avril, le paiement a été prélevé sur ma carte. Je me suis dit, ça va se faire. Aujourd'hui, 1er juin, après 90 jours de délai et d'attente, aucune nouvelle du passeport de mon fils. Quand on appelle au gouvernement fédéral, il n'y a pas de réponse. La boîte vocale automatisée nous demande gentiment de rappeler plus tard avant de raccrocher automatiquement. Pour les gens qui passent par là, il n'y a pas de surprise. Ce matin, vous êtes tous tombés sur ce système-là. J'ai beau tenter de prendre un rendez-vous, ça ne marche pas. J'ai utilisé le formulaire en ligne sécurisé pour faire un suivi. Je n'ai pas de retour. Vous n'êtes pas le seul. C'est peut-être la mince consolation. Puis je le disais au début, ça fait des semaines qu'on tente de parler à quelqu'un. Tout le monde se pousse. Il n'y a personne qui peut venir répondre. À part les phrases creuses, genre, il y a beaucoup de demandes, puis on est débordé, puis vous savez, la COVID, c'est pas facile. Mais c'est un processus qui est long. En immigration, c'est long. Les passeports, ça prend une éternité. Et l'autre enjeu qu'on va vivre possiblement, en tout cas jusqu'à la fin du mois, c'est le fédéral qui maintient les règles sanitaires pour ce qui est de la frontière, notamment, là, surtout pour les déplacements en avion. Puis là, on le voit, les gens, là, la demande est extrêmement forte pour des voyages cet été, cet automne, puis même pour l'hiver prochain. Beaucoup de Québécois commencent à planifier. Donc, ces tests aléatoires à la frontière vont continuer jusqu'à la fin juin. L'exigence vaccinale est maintenue. Le port du masque, par exemple, dans les avions, c'est maintenu. Et si vous voyagez, il faut toujours vérifier qu'est-ce qu'on vous demande à l'autre bout. Le pays où vous vous rendez a quelle sorte d'exigence. Et ça, je pense que c'est important aussi de le spécifier. Donc, pour encore 30 jours, c'est comme ça que ça va fonctionner. Un mot sur l'UPAC depuis hier. Je voyais évidemment différentes révélations. Ce matin, le Journal de Montréal, Robert Lafrenière, d'après ce que rapporte le bureau d'enquête, qui avait peur s'il se faisait pogner à jaser avec Denis Lessard de la presse, qui serait pris probablement pour perdre sa job, des craintes. Beaucoup de choses qu'on avait entendues, là, tu sais, quand on dit par exemple que dans le cas de Nathalie Normandeau, l'arrestation a été devancée pour des raisons politiques. Prends pas un grand cours là, pour comprendre ça. Pourquoi aller faire ça le jour du budget, à la veille d'une décision concernant son renouvellement de mandat? C'est pas anodin, c'est pas une coïncidence. Et surtout que les procureurs, les enquêteurs dans le dossier n'étaient pas arrivés à cette conclusion-là. Les fils n'étaient pas attachés. Et hier, j'ai vu les partis d'opposition qui demandaient évidemment le démantèlement de l'UPAC. Et la question qu'on peut se poser ce matin, à quoi sert l'UPAC? Est-ce que la marque est brûlée? Ça, c'est la première question. Beaucoup pensent ça. Guy Ouellet, qui était avec nous hier, le député, dit que qu'on retourne les opérations à la Sûreté du Québec et qu'on en finisse. Mais surtout ce matin, je pense que comme citoyen, la préoccupation qu'on doit avoir, c'est à quel moment le BEI, en principe c'est décembre, va compléter l'enquête et envoyer ça au DPCP pour évaluation. En d'autres mots, est-ce que ça veut dire qu'il faut attendre encore un an, compte tenu de la preuve volumineuse, avant de savoir si des individus seront accusés? Actuellement, je l'ai dit hier, comme disent mes boss, tu marches sur un fil de fer, il faut faire attention pour pas, évidemment, ouvrir la porte à des poursuites. Il n'y a personne d'accusé, il n'y a personne d'arrêté, il n'y a encore moins personne de condamné. Mais y aura-t-il un jour des gens qui seront arrêtés, accusés et éventuellement condamnés? Parce que c'est épouvantable ce qui s'est fait, là, des fuites organisées comme ça, là, quand on y pense, là. Des documents à la caisse qui ont été fournis, puis on se demande où est le bandit et qui est le bandit. Je pense qu'on en a parlé pas mal hier. Également, en Colombie-Britannique, je vais faire un petit tour rapide là, pour conclure, la possession de petites quantités de drogue dite dure sera décriminalisée. Pourquoi? Ben, on dit y a une consommation qui est forte. Quelqu'un qui a des quantité, que ce soit de la cocaïne, opioïde ou autre, là, pour une consommation personnelle, on ne parle pas d'un trafiquant, ça ne donne rien qu'il y ait un casier judiciaire. C'est un peu la même logique que derrière le pot. Et on sait qu'en Colombie-Britannique, il y a 9000 personnes qui sont décédées d'une surdose. Puis pas juste dans le quartier là, centre-ville de Vancouver, qui est un endroit, si vous êtes déjà passé par là, où les gens sont intoxiqués, c'est un portrait glauque. Mais partout dans la province, il y a beaucoup de cas de fentanyl également. Alors, on pense que c'est une approche qui peut être intéressante. Ça fait le tour de nos manchettes pour ce matin.
Vous écoutez l'essentiel de Paul Arcand en 60 minutes. De retour après la pause. Vous écoutez l'essentiel de Paul Arcand en 60 minutes. Bonne écoute.
Très bien. Je vous ai parlé lundi de ce programme Un appel, un rendez-vous qui avait été lancé au mois de septembre dernier dans le Grand Montréal pour permettre à des parents avec un numéro de téléphone d'obtenir un rendez-vous rapide pour un enfant malade, mais pas un cas d'urgence, là, comme c'est souvent la situation. Délai, là, 24-48 heures. Un franc succès, 45 000 rendez-vous ont été pris de cette façon-là entre septembre et mars. Et puis, soudainement, pouf, le programme est aboli. Des parents sont consternés, lettre ouverte, entre autres, en fin de semaine. On va en parler avec Francine Dupuis, qui est la présidente directrice générale adjointe du CIUSSS du Centre-Ouest de l'île de Montréal. Madame Dupuis, bonjour.
Bonjour, Monsieur Arcand.
Est-ce que je comprends que le programme sera à nouveau disponible?
Oui. Excusez ma voix peu radiophonique ce matin. Là, j'ai un virus dans la, dans la voix, mais j'espère que je serai suffisamment audible pour vos, oui. pour votre, vos auditeurs. Oui, écoutez, la situation est la suivante. Je me suis allée vraiment là, chercher les informations pour pouvoir être très claire avec vous.
Oui.
Ce projet-là qui avait été mis sur pied par le DRMG montréalais, qui était un excellent projet, vous l'avez dit lundi, qui a donné d'excellents résultats, fonctionnait très bien pendant l'urgence socio-sanitaire. Puis, à un moment donné, si je peux me permettre l'expression, l'eau du lac a baissé. C'est-à-dire que les urgences sont redevenues plus gérables, mais c'est sûr que des urgences toujours occupées. Mais le but du ministère, là, c'était d'élargir l'accès à la clientèle vulnérable, c'est-à-dire orpheline, qui n'a pas de médecin de famille, à la clientèle maintenir pour les 0-17 ans, puis élargir à la clientèle adulte et personnes âgées, avec un numéro unique à Montréal, où ces gens-là peuvent s'adresser et où ils sont redirigés.
OK, mais attendez une seconde. Ce service-là dont vous me parlez n'existe pas encore.
Voilà, c'est ça. C'est qu'on a pensé qu'étant donné que les urgences pédiatriques étaient stabilisées, on pourrait faire le pont d'ici quelques mois entre la ligne téléphonique qui a été cessée à cause de l'urgence socio-sanitaire qui était terminée. Puis on pensait que ça serait stable et que là, on sauterait dans le numéro unique pour la clientèle pédiatrique, bien sûr, orpheline, et pour les autres clientèles.
OK, mais attendez, vous allez trop vite, là. Vous avez fermé un système qui marche pour basculer vers un système qui n'était pas encore en service.
C'est ça. L'erreur, je ne sais pas si c'est l'erreur, là, mais tu sais, dans le fond, là, M. Arcand, tout le monde est de bonne foi là-dedans.
Toujours.
Ce qui est arrivé, là, c'est que on a travaillé sur deux fronts à la fois. D'une part, nous autres, on veut vraiment se focusser sur la clientèle orpheline, qui est vraiment la clientèle la plus défavorisée. Et on veut pousser les GMFR à prendre leur clientèle inscrite en son rendez-vous. C'est pas normal.
Mais ça, je suis d'accord avec vous. Puis ça, il n'y a personne qui argumente là-dessus. Mais attendez. Encore là, vous allez un petit peu trop vite.
Je vous écoute.
Là, vous me dites, la situation va mieux dans les urgences. Madame Dupuis, c'est pas à vous que je vais apprendre ça, là, par expérience. Quand le beau temps arrive, durant l'été, avec les vacances, pénurie de personnel, les urgences finissent toujours par déborder, puis c'est vrai, pour les hôpitaux pour enfants. Alors là, moi, ce que je veux savoir, est-ce que vous ramenez ce numéro de téléphone?
Oui.
Bon.
La réponse, la bonne nouvelle, là,
oui, c'est la bonne nouvelle.
Mais c'est une bonne nouvelle à une mauvaise nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est que les urgences ont recommencé à déborder. La bonne nouvelle, c'est qu'à partir de lundi prochain, jusqu'à ce que le numéro unique montréalais soit en fonction dans les prochains mois, on va rétablir l'ancien numéro pédiatrique à partir de lundi matin, de lundi au vendredi de 8h à 20h, la fin de semaine et les jours fériés de 8h à 16h. Et ce sera toujours exclusivement pour la clientèle 0-17 ans.
En attendant d'avoir le guichet pour les orphelins, les autres.
Pour tout le monde.
Pour tout le monde.
Dans le fond, là, il va y avoir un guichet dans les prochains mois. D'ailleurs, le projet est déjà en marche à Québec. Puis on me dit que ça fonctionne très bien. Et tout le monde qui est orphelin va pouvoir avoir accès à ce numéro-là et sera redirigé dans son CIUSSS, au gap de son CIUSSS. Je sais que c'est bien des chiffres.
Ça, c'est compliqué, le gap du CIUSSS.
Oui, c'est compliqué. Mais écoutez-moi, je veux vraiment vous dire ça.
Oui.
Je pense qu'on peut arriver à donner un service qui est encore meilleur qu'un appel, un rendez-vous. Parce que, voyez-vous, mon gap là, au Centre-Ouest, là, il est fonctionnel depuis le mois de février. Et on me confirme que 40% des appels ont été redirigés à d'autres professionnels qu'à des médecins. C'est pas toujours le docteur qui est la meilleure personne.
Ça, Mme Dupuis, je sais tout ça par cœur. C'est parce que moi, ce que je comprenais pas, là, c'est de fermer un service qui marche pour basculer vers un service qui n'existe pas.
C'est une très bonne question.
Mais
on aurait pu la garder ouverte pour 2 mois de plus.
Ben oui.
Mais étant donné que ça se passait bien et que c'était tranquille, les gens ont pensé que on pouvait passer quelques mois de transition pour s'en aller vers le numéro unique.
Madame Dupuis, vous me dites que là, on change d'idée, qu'à partir de lundi, on réactive le numéro parce que là, ça surchauffe un peu dans les urgences.
C'est exactement ça.
Est-ce que ça se peut aussi que ça ait surchauffé au cabinet du ministre puis qu'il ait pété une coche puis qu'il vous a dit « Vous allez me rouvrir ça au plus sacré? »
Ben, moi, je commence à le connaître pas mal, là, puis il pète pas des coches.
C'est un homme
assez rationnel. Mais non, ce qu'il nous a dit, c'est...
Voulez-vous ouvrir ça au plus sacré?
Non, il a dit ça presse, là, pour le numéro unique, là. Parce que nous, là, on veut vraiment desservir tous les groupes d'âge qui sont orphelins. Alors, il nous a pas tapé sur les doigts, Il a juste dit, dépêchez-vous, parce que tous ces gens-là qui n'ont pas de médecin de famille... sont en manque et ils ont besoin d'un service le plus rapidement possible. Mais il n'a pas pété sa coche.
OK, parfait. Vous me rassurez. Merci, Mme Dupuis. Bonne journée à vous.
Ça me fait plaisir. Bonne journée. À la
Francine
prochaine.
Francine Dupuis, présidente directrice générale adjointe du CIUS du centre-ouest de l'île de Montréal. En résumé, à partir de lundi, le numéro de téléphone va être réactivé. Me pensais dans un film. Alors, on comprend que... Puis il y a des auditeurs me disent ça aussi. Oui, mais pour les autres patients, on est d'accord. L'objectif, c'est que ce système qui a donné des résultats, 45 000 rendez-vous, une affaire qui marche, puis que le mammouth envoie à la poubelle vers un service qui n'est pas encore fonctionnel. Tu sais, ça s'appelle le néant en deux affaires. Puis on comprend que l'idée, c'est qu'il y a un numéro pour tous les patients du Québec, puis que ça va être parfait. Mais en attendant, tu ne fermes pas quelque chose qui marche. Et bizarrement, c'est à cause de la surchauffe tout à fait récente dans les urgences. On a dit, ben non, là, ça commence à brasser. Fait qu'on va réactiver le numéro jusqu'à temps que l'autre patente fonctionne. Fantastique. Ben, au moins, ça a donné ça. Alors, on est bien contents.
L'essentiel de Paul Arcan. Tout ce que vous devez savoir en moins de 60 minutes.
7h27, on se retrouve en plein débat sur l'immigration. Un débat de plus en plus personnalisé, d'ailleurs, à l'Assemblée nationale. Et ce matin, nous avons cette étude, et on y reviendra dans les prochaines minutes, de l'Institut du Québec, qui nous montre que, depuis les dernières années, l'immigration a profité au marché du travail, que les immigrants sont de plus en plus des gens qui ont un emploi, peut-être pas l'emploi recherché en fonction de leurs études, mais quand même, travail, taux de chômage qui baisse, avec des défis, par exemple, de convaincre les nouveaux arrivants d'aller vers les régions du Québec, et aussi de faire en sorte que les machines administrative, surtout à Ottawa, soit plus efficace. Quand je dis que le débat devient personnel, on a vu hier cet échange entre la chef libérale Dominique Anglade et le premier ministre Legault, et Mme Anglade donnait l'exemple de son député de Laval-des-Rapides, Saul Polo, en disant « voilà quelqu'un qui s'est intégré, c'est quelqu'un qui fait partie de ce qu'on appelle la génération de la loi 101, qui parle français ». Le premier ministre Legault a répondu que c'était une anecdote et on a vu un peu le débat s'enflammer. Monsieur Polo est avec nous ce matin. Bonjour.
Bonjour, Monsieur Arcan.
D'abord, avant de parler comme tel du débat de fond, peut-être nous raconter votre parcours, vos origines et votre cheminement au Québec.
Ben, merci beaucoup, Monsieur Arcan. Regardez, au mois de février de cette année, ça fait 40 ans que ma famille et moi, on est arrivés au Québec. Quand moi-même, j'ai intégré l'école quelques semaines après, j'ai été 4-5 mois en classe d'accueil pour apprendre le français. En septembre 82, j'ai intégré les classes régulières, comme tous les enfants d'immigrants le font, qui sont des éponges grâce à la loi 101, ben on est intégré en français et scolarisé en français. Ma mère, qui est arrivée en même temps que moi, elle a pris des cours de français dans les coffees, dans les YMCA, 3 fois par semaine, les 6 premiers mois qu'elle est arrivée. Mais comme beaucoup d'immigrants, ils sont en mode survie. Et puis... ma mère est couturière. Et, excusez-moi, ça allait me chercher, M. Arcan, mais...
Je comprends.
6 mois après notre arrivée, elle ne pouvait plus prendre des cours de français. Elle travaillait sur la rue Chabanel. Puis elle me demandait de l'accompagner quand elle avait besoin de faire des courses pour que je l'aide à traduire le français. Ma mère, aujourd'hui, parle un français avec un fort accent, mais elle parle le français. Et moi, J'ai adopté le français à l'extérieur de la maison comme tous les immigrants. C'est ma fierté. Et je m'efforce de bien le parler.
Je vous écoute, monsieur Poilot, et j'ai des amis qui je dirais, ont le même parcours que vous. Je pense à un ami italien dont les parents sont arrivés ici, je dirais à peu près à la même époque que vous, là, peut-être même un peu avant. Les parents, bon, parlaient ni anglais ni français. Je vous dirais que les parents ont appris quelques mots pour se débrouiller, peut-être plus en anglais. Puis il faut dire qu'à l'époque aussi, la communauté anglophone tendait davantage les bras vers la communauté italienne. Mais tout ça pour vous dire que les parents n'ont pas beaucoup appris le français, ou en tout cas juste assez pour se débrouiller, mais les enfants qui suivent maîtrisent le français, parlent le français, et c'est grâce à la loi 101 que c'est arrivé.
Bien sûr. J'ai fait toute ma scolarité jusqu'à l'université en français, M. Sarkan. Je m'efforce de bien le parler. Mon garçon, qui a 13 ans, fait toute sa scolarité en français. Mais j'ai fait un choix. J'ai grandi dans un milieu familial où je parlais en espagnol à mes parents, à ma famille, encore aujourd'hui. J'ai fait un choix de parler en espagnol, de continuer de parler en espagnol à mon garçon depuis qu'il est né. Je m'efforce. Son réflexe, c'est de me répondre en français, mais je m'efforce de lui parler en espagnol parce que c'est un outil. Je veux qu'il reste connecté à sa culture d'origine tout en étant fier québécois et canadien. Et la réponse du premier ministre, vous le voyez, là, c'est venu me chercher, c'est venu m'affecter. Parce qu'à un moment donné, c'est assez d'avoir l'étiquette qu'on est coupable, qu'on est associé, qu'on est une menace au fait français ou qu'on est une menace à la nation québécoise. Quand est-ce que ça va être assez? Quand est-ce que ça va être assez de bien s'intégrer économiquement, d'adopter le français, d'être un Québécois, de se définir comme Québécois, puis de se faire appeler ou de se faire définir comme une anecdote, alors que c'est la très grande majorité des immigrants non francophones qui ont le même parcours que le mien et celui de ma famille.
Si j'essaie là, de jouer un peu à l'avocat du diable, en disant c'est vrai que les enfants de la loi 101 qui donc apprennent le français par le système scolaire, c'est une chose. Souvent, je vais dire qu'à une époque, on pouvait pas se faire servir en français parce que la personne devant nous était unilingue anglophone. Maintenant, on a affaire à des gens qui parlent trois langues, j'imagine comme vous, là, votre langue maternelle, le français, l'anglais. Mais en même temps, il y a beaucoup de jeunes, pour toutes sortes de raisons, qui comprennent le français, qui maîtrisent le français, mais qui décident quand même de vivre en anglais.
Monsieur Arcan, le contrat moral de l'immigration, quand on arrive au Québec, quand on arrive au Canada, c'est de bien s'intégrer, d'adopter la langue commune, de l'utiliser dans les espaces publics, de l'utiliser au travail, d'étudier en français jusqu'à la fin du secondaire ou plus tard. Puis par la suite, ce qui se passe à la maison, il y a déjà eu un grand premier ministre qui a dit « Ce qui se passe dans la chambre à coucher des Canadiens, c'est pas au gouvernement de décider. » Moi, ce que je dis aujourd'hui, ce que beaucoup d'immigrants disent, ce qui se passe autour de ma table à souper à la maison, c'est pas au premier ministre Legault puis au gouvernement de dicter quelle langue je dois utiliser.
Selon vous, quels sont les outils? Puis essayons d'avoir une discussion là, au-delà de la partisanerie puis des enjeux là, qu'on voit en politique. Là. Comment un immigrant, enfin, fils d'immigrant comme vous, implanté au Québec, qui a appris le français, voit la façon la plus efficace de protéger la langue de la majorité, la langue des Québécois?
Monsieur Arcan, mon parti et moi, au-delà de la partisanerie, on a présenté 27 propositions pour promouvoir, consolider et favoriser l'utilisation du français. On reconnaît qu'il y a du travail à faire. Mais ceci dit, là où ça dérape, là où le premier ministre dérape, c'est lorsqu'il parle du transfert linguistique et de l'utilisation de la langue parlée à la maison. Ça n'appartient à aucun...
Non, mais ça, j'ai très bien compris ça. Mais donnez-moi des exemples, là. Donnez-moi deux de vos propositions en disant comment protéger le français, comment s'assurer que dans 20 ans, 30 ans, ça sera quand même une langue qui sera vivante au Québec.
C'est déjà le cas. Il y a une très grande majorité, presque la totalité, qui l'utilise dans l'espace public maintenant. Une façon de s'assurer que l'immigration contribue de plusieurs façons, c'est notamment à travers la régionalisation de l'immigration. M. Arcan, je pense que vous venez du centre du Québec, si je ne me trompe pas. Je suis d'origine colombienne. Il y a une vingtaine d'années, il y a eu une grande arrivée de réfugiés colombiens qui sont arrivés partout au Québec. Et aujourd'hui, ces familles-là sont restées dans ces régions-là, fonctionnent, travaillent en français, ont aidé à faire vivre l'économie de ces régions-là, de ces villes-là. Et ne se sont pas déplacés vers Montréal, Sherbrooke, Victoriaville, Trois-Rivières, même ici à Québec, c'est le cas.
Oui, mais dans les faits, quand même, on peut dire que la forte majorité des immigrants se concentrent dans la région de Montréal. J'ai regardé les chiffres ce matin de l'Institut du Québec, c'est encore ça.
En effet, et vous savez ce que dit l'OQLF, l'Office québécois de la langue française, c'est que 90% des personnes utilisent le français dans les espaces de travail et dans l'espace public. Et les prévisions, c'est que d'ici 2036, ça va être 94%. C'est l'OQLF qui le dit, monsieur Arcand.
Je comprends, mais je suis d'accord avec vous, mais en même temps, on sent la force de l'anglais. Des emplois qui, malheureusement, puis là, je parle pas du bilinguisme individuel, là, mais il y a quand même des emplois où on demande la connaissance de l'anglais. Et des fois, tu te dis, est-ce que c'est pas un peu poussé fort, là? Puis je suis le premier à connaître l'importance de maîtriser les deux langues si on veut avoir une carrière, puis si on veut avoir des emplois, puis des perspectives d'avenir. Mais parfois, on a l'impression, peut-être à tort, je vous écoute là-dessus, que l'anglais s'impose beaucoup dans l'environnement, surtout à Montréal.
Et je ne vous contredis pas, M. Arcand. Il y a des choses à corriger, il y a une valorisation, il y a une promotion. Au niveau de l'emploi, vous avez raison. J'ai moi-même une employée de mon bureau de comté qui termine son baccalauréat en ressources humaines et qui doit terminer des cours en anglais pour pouvoir intégrer ce secteur de travail. Elle pourrait se trouver un emploi demain, mais c'est clair qu'elle n'a peut-être pas assez accès à autant de postes que si elle avait un niveau d'anglais convenable. Et là, c'est des choses comme ça qui sont inacceptables, qui doivent être vues. Et on est tous d'accord sur ce point-là. Peu importe le parti, on est tous d'accord à ce niveau-là. Et il y a des choses à corriger. La loi 101 au niveau des entreprises de 25 à 50 employés, on était d'accord avec ça aussi. Vous comprenez?
Oui. Je reviens aux premières questions. Vos parents donc ont quitté la Colombie, sont venus ici. Oui. Pourquoi ils ont choisi le Québec? Pourquoi ils sont demeurés au Québec? Il y a quand même un pourcentage d'immigrants qui décident, par exemple, de poser le pied au Québec et pour toutes sortes de raisons s'installent ailleurs au Canada. Pourquoi d'abord le Québec, puis pourquoi y être resté?
Il faut comprendre que mon père, qui est décédé, est venu au Québec en 1975, l'année avant les Jeux olympiques. Et il a vu le Québec et le Canada, et surtout à l'époque Montréal, comme étant une terre d'opportunité. Moi, aujourd'hui, je suis très fier. Ma famille et nous sommes très fiers d'avoir fait ce choix-là. Comme beaucoup d'immigrants, on est fiers d'être Québécois aujourd'hui, de se définir comme Québécois. Le Québec nous a apporté beaucoup, nous a donné beaucoup d'opportunités, nous a permis de vivre en paix, d'avoir une mobilité sociale, M. Arcand. Beaucoup de familles immigrantes, je vous l'ai dit, ma mère, elle écoute sur elle, elle a peine sa sixième année primaire, mon père a peine son secondaire. Et d'être aujourd'hui député à l'Assemblée nationale, c'est quelque chose d'impensable dans mon pays d'origine. Et ça, c'est le Québec. Et ça, c'est ce qui nous rend fiers. Et c'est ce qui nous... c'est aussi le contrat avec lequel nous, on s'engage et dire, parfait, le Québec nous tend la main, nous a ces opportunités-là. Mais nous aussi, nous avons un contrat à respecter, à être des bons citoyens, à adopter la langue, à travailler, à contribuer à son essor et à être des citoyens modèles. Et ça, c'est le Québec qui nous l'a donné.
M. Poilot, merci d'avoir été avec nous. Bonne journée.
Merci.
Au revoir. Saul Poilot est député libéral de Laval-des-Rapides.
Vous écoutez L'Essentiel de Paul Arcand en 60 minutes. De retour après la pause. Vous écoutez L'Essentiel de Paul Arcand en 60 minutes. Bonne écoute.
Bon, il y a beaucoup de gens qui m'écrivent depuis hier qui essaient de comprendre le plan qui a été présenté pour permettre aux Québécois de se déplacer sur le territoire en avion, donc le transport aérien régional, comme une espèce d'outil pour stimuler le tourisme en région, puis également faire en sorte qu'on n'ait pas à dépenser des sommes astronomiques comme c'est le cas. Le ministre des Transports, François Bonnardel, est avec nous. Monsieur Bonnardel, bonjour.
Bonjour, M. Arcand.
Bon, là, mettez ça clair pour les gens, là. Ils ont droit à quoi, puis quelles sont les conditions, là? C'est 500 $ aller-retour, c'est ça?
Exactement. Donc, le nouveau volet 2, celui qui va intéresser la plupart des gens qui nous écoutent, c'est un nouveau volet qui existe dans le programme de rabais sur le transport aérien, qui veut dire quoi? C'est qu'à partir de ce matin, vous allez sur un site d'un transporteur canadien, que ce soit Pascan, que ce soit Air Québec, Air Inuit, Air Liaison, Air Canada, vous pourrez réserver un billet aller-retour pour 500 $ taxes incluses. Et ce voyage doit se faire à des fins personnelles. Vous aurez droit à 3 voyages, 3 allers-retours par année fiscale.
Comment vous faites pour déterminer que c'est à des fins personnelles?
Bien, la personne devra bien, pas signer, mais cocher que ce voyage se fera sur une base personnelle. Et nous, à la fin, quand on va faire notre édition de compte aux 3 mois pour rembourser les transporteurs, bien, on va mettre en place une base de données, corriger l'information. Et si on voyait qu'il y avait des gens là, qui revenaient plus de 3 fois, bien, vous comprendrez qu'ils pourraient être suspendus du programme.
OK. Quelqu'un, mettons, qui prendrait l'avion pour percer pour aux 2 semaines, c'est pas trop un touriste, là.
C'est pas trop un touriste. Donc, si certains se disaient, bah, ça risque d'être facile de voyager une 4e, une 5e ou une 6e fois, ben, je leur dirais, donnez-nous le temps de mettre tout ça en place, là. On va colliger ces informations, faire nécessairement des redditions de compte pour travailler avec les principaux transporteurs, mettre une base de données en place. Et par la suite, s'il le faut, suspendre des clients qui pourraient outrepasser les règles.
OK. Est-ce que le vol doit partir ou arriver à Montréal, Québec ou Saint-Hubert? Est-ce qu'il y a c'est quoi l'histoire?
Il faut bien statuer. Il y a 3 aéroports importants pour nous qui sont Québec, qui sont Saint-Hubert et qui sont Montréal, où sont basés les principaux avionneurs. Maintenant, il y a certains qui pensaient qu'il fallait absolument partir de Québec, Saint-Hubert ou Montréal. Non, c'est une destination à l'autre. Ça veut dire que si vous êtes à Rouyn-Noranda, puis vous voulez aller à Montréal passer des vacances, passer un week-end, aller voir votre famille, vous avez droit à ce billet à 500 $. Même chose si vous êtes aux îles, même chose si vous êtes à Baie-Comeau. Vous prenez un vol direction Montréal, direction Saint-Hubert, vous avez droit à ce vol à 500 $. Donc, c'est pas juste un départ seulement de ces 3 principaux aéroports.
Et pourquoi pas les autres? Mont-Joli, par exemple, pourquoi il faut que ça soit absolument un de ces 3-là?
Non, mais tous les aéroports, monsieur Arcan, vont bénéficier de ce coût à 500 $. Là, il faut juste faire attention parce qu'il y a 2 volets dans le programme. Il y a le volet 1 qui existe déjà pour les différentes régions plus au nord du Québec qui, eux, bénéficient déjà d'un rabais de 30, 40 ou 60 du billet d'avion. OK? Et ce coût et ce plafond qui était 3000 $ pour ces résidents plus au nord a été levé. Donc, ces gens pourront voyager comme ils le souhaitent 4 fois, 5 fois, 6 fois, mais le coût majoritairement de ce billet est en bas de 500 $ déjà.
OK, juste comprendre. Prenons un cas de bien simple. Quelqu'un qui habite, je ne sais pas moi, Schefferville, ou encore Sept-Îles, qui dit « je m'en vais à Montréal », qui part de Schefferville, arrive à Montréal, puis reprend l'avion, puis s'en va à Schefferville, ça coûte combien?
500 $.
Point final.
C'est ça.
Et ça, c'est...
Si vous me dites, parce que les exemples que j'ai eus, il y en a qui m'ont dit, ouais, François, si je pars de Rouyn puis je veux me rendre à Baie-Comeau, ben, il n'existe pas de destination ou de liaison Rouyn-Baie-Comeau. Donc, vous allez devoir faire un Rouyn-Montréal, payer votre 500, puis là, faire un autre Montréal-Baie-Comeau, si vous le souhaitez. Donc, nous, on a mis en place des dessertes qui existent déjà. On veut pérenniser le réseau qui existe déjà. Et si un jour, il y avait des destinations additionnelles dues à une demande X et une offre potentielle des transporteurs, on pourra l'évaluer en temps et lieu.
OK. 2 ou 3 questions. D'abord, on comprend que la saison estivale, là, puis on le voit encore avec un sondage CA ce matin, là, les gens se déplacent, puis beaucoup en auto, puis peut-être d'autres vont être tentés par l'avion. Mais est-ce que vous le voyez pour une période X, donc, je ne sais pas, mois de juin à septembre, octobre, ou si vous avez un objectif pour vitaliser les régions 12 mois par année?
Bien, il est certain que pré-pandémie, on avait à peu près 500 000 déplacements au Québec pré-pandémie. Puis là, on se dit que le coefficient de remplissage des avions pour le prochain 18 mois, on l'évalue à 50 %. Donc, on s'est dit, on va mettre 250 000 déplacements sur notre planche à dessin. Et sur ces déplacements, il y en a à peu près 30 % qui sont reliés à des fins personnelles pour voyager, aller voir la famille, peu importe. Donc, on a mis 100 000 billets, plus ou moins 98 000 billets disponibles pour tous les Québécois qui souhaiteront voyager sur une année fiscale complète. Et je le disais hier, si les Québécois me disent ben, on a pris tous ces billets sur une année X puis que les transporteurs en ont besoin d'autres, ben, ce sera un heureux problème qu'on aura à résoudre avec le ministère.
OK, c'est
pour
ça.
Augmenter ces billets.
OK, parce que ça, c'était mon autre question. Il n'y aura pas une course aux billets à partir d'aujourd'hui dans la mesure où si on atteint, disons, 98 000 puis que les gens veulent encore en acheter, bien, il y en aura de disponibles. Autrement dit, là, c'est pas jusqu'à ce qu'on ait épuisé le stock.
Exactement. Bien là, les transporteurs ont une base de billets sur une période de X, sur une période de 3 mois. Donc, si les transporteurs nous disent, bien, écoutez, on a écoulé tous nos billets pour les destinations X que l'on dessert sur les 45 premiers jours, bien, ils pourront appeler le ministère et demander des billets additionnels.
Il y a l'opposition qui prétend, entre autres, que c'est un programme qui vise surtout, là, dans le fond, les gens de Montréal, Québec, pour les amener comme touristes en région et pas pour aider les gens des autres régions à venir, par exemple, à Montréal-Trou.
Bien, vous savez, j'étais dans l'opposition, M. Arcand. Chialer pour chialer, c'est simple, mais trouver des solutions, c'est pas nécessairement simple.
Avez-vous déjà fait ça? Chialer pour chialer?
Non, non. On peut être dans l'opposition et dire que ça ne fonctionne pas, mais amener des pistes de solutions, ça reste un défi. Puis j'ai pas entendu de pistes de solutions. Mais au-delà de tout ça, c'est ridicule de dire que les régions n'y voient pas un gain important. Je vous le répétais là, d'entrée de jeu. Vous êtes à Chibougamau, vous êtes à Rouyn, puis vous voulez venir à Montréal ou à Québec passer des vacances. Mais vous avez droit à ces billets à 500$. Là. On n'a pas dit non à ces gens. Donc, c'est vice-versa. Que vous partiez des régions, vous partiez des grands centres de Montréal, vous aurez droit à ces billets. Puis nécessairement, bon, le bassin de gens le plus important au Québec est où? Et dans Montréal, dans son environnement. On souhaite aussi que les Montréalais aillent visiter leur Québec et qu'ils se disent, bien, pourquoi pas aller à Gaspé? Pourquoi pas aller faire un saut à Rouyn, Val-d'Or, Baie-Comeau, Chibougamau et même Fermont, s'ils le souhaitent, pour aller visiter le Québec qu'ils n'ont peut-être jamais visité.
M. Bonnardel, merci. Bonne journée.
Au plaisir.
Au revoir. François Bonnardel, ministre des Transports. Bon, maintenant, Frédéric est avec nous pour nous parler de Guylaine Gay, qui intervient beaucoup sur les réseaux sociaux. Et elle l'a fait hier pour dénoncer la bureaucratie. Je pense que son cri du cœur a été largement partagé.
Tout à fait. Elle, qui est mère de 2 enfants autistes, elle parle fréquemment de son quotidien sur les réseaux sociaux pour informer le public des enjeux des parents d'enfants vivant avec des handicaps. Elle est d'ailleurs marraine de la Fondation Véro et Louis. Elle a fait des publications dans les dernières heures sur sa page Instagram pour dénoncer une situation déplorable. Résumons les faits. Elle a fait de longues et coûteuses démarches pour devenir curatrice de son fils Clovis. Un curateur, c'est une personne qui est à charge d'assister une personne majeure incapable de veiller à ses intérêts. De facto, elle croyait que les différentes instances gouvernementales allaient comprendre que son fils était lourdement handicapé et non verbal. Mais non, la main droite ne parle pas à la main gauche. Elle a reçu une lettre de Revenu Canada pour informer que Clovis avait perdu son crédit d'impôt pour personnes handicapées, comme si tout à coup, en passant le cap de 18 ans, il allait automatiquement devenir neurotypique. Elle doit maintenant prouver au gouvernement fédéral que son fils est toujours handicapé. Elle écrit « Rien ne me met plus à bout que la bureaucratie. Je tiens à rappeler qu'entre autres, toutes ces demandes, on s'occupe de nos enfants. T'sais, c'est bien beau faire la bureaucratie, mais il y a 2 enfants autistes dans tout ça et elle doit s'en occuper. Et ce n'est pas fini. Écoutez ça.
J'appelle à Revenu Canada pour leur dire que des parents comme moi n'avons peut-être pas l'énergie ou le temps de faire toutes ces démarches-là pour prouver à nouveau que nos enfants lourdement handicapés sont encore handicapés. Et la fonctionnaire à qui je parle me dit que je devrais écrire une lettre au responsable de mon dossier pour expliquer pourquoi je n'ai pas le temps. Vraiment, c'est la maison des fous ou quoi?
Donc, il faut qu'elle prenne le temps pour
mais ça,
expliquer.
Là, sérieusement, elle n'est pas la seule. Moi, j'ai vu ça souvent. Là, des parents qui ont un enfant avec un handicap là, qui va se maintenir au mieux puis qui risque de se dégrader. L'enfant là va pas changer de statut. Puis je me souviens d'un cas, là, puis on était intervenu là-dedans parce qu'on demandait aux 2 ans de confirmer par une évaluation médicale que cet enfant-là, qui est handicapé pour la vie, était encore handicapé. Fait que tu sais, la maison des fous, elle a parfaitement raison.
Exactement. Puis sur les réseaux sociaux, ça a vraiment ouvert un canal. Il y a des centaines de parents, des familles qui ont commenté cette publication justement en expliquant ça, qu'ils doivent aller au privé pour aller faire évaluer l'enfant à des coûts astronomiques parce que dans le public, il n'y a pas de place. Mmh. Et ceux qui n'ont pas les moyens doivent attendre et engorge le système public pour avoir ce dit document. Donc, c'est vraiment effectivement la maison des fous. Ça, c'est sans compter ceux qui n'ont pas le micro ou ceux qui n'ont pas la visibilité comme Guylaine Gay
pour le faire.
Donc, la situation, là, c'est vraiment la pointe de l'iceberg, Paul.
Merci beaucoup.